aller plus loin avec le Seigneur. Et j'espère que c'est quelque chose qui bouillonne dans votre cœur. En tout cas, moi, avec mes bientôt 70 ans, je veux aller plus loin avec le Seigneur. Parce que j'ai bien conscience qu'il y a encore des bénédictions en réserve et je veux les vivre, alléluia, aller plus loin avec le Seigneur. Ceci sous-entend qu'il pourra y avoir en chemin des obstacles, des défis à relever, peut-être des intentions malveillantes de l'adversaire pour nous stopper, nous faire dévier des plans divins. Mais ce que le Seigneur veut, il le fait. Et comme il veut que tu ailles plus loin avec lui, il va t'en donner la capacité. Alors dimanche dernier, nous avons pris l'exemple de deux disciples qui étaient le dos tourné à Jérusalem et qui allaient vers la ville d'Emmaüs. Et le Seigneur Jésus, merci beaucoup, le Seigneur Jésus est venu à leur rencontre. Et nous avons vu ensemble de quelle manière ces deux disciples en panne, le Seigneur les a réparés et les a remis en état de reprendre leur marche. Cette fois-ci, ils courent vers Jérusalem, vers les leurs, et ils sont enflammés du feu sacré de la proclamation. Ce matin, je voudrais partager, même si le sujet est tellement, tellement riche et vaste, un autre aspect de cette thématique, aller plus loin dans le fleuve de Dieu qui symbolise le Saint-Esprit et la vie du Saint-Esprit. Aller plus loin dans le fleuve de Dieu. Je vous proposerai tout au long de ce message quelques lectures. La toute première qui va introduire ma réflexion se trouve dans le premier livre de la Bible. Donc dès le commencement, il est parlé d'un fleuve. Genèse chapitre 2 et nous lirons du verset 10 au verset 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush, très probablement l'Éthiopie. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est le tigre. Hein. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. Et nous allons faire un survol dans toutes les Écritures pour constater une chose, c'est que le fleuve de Dieu est présent dans tout le récit biblique, de la Genèse, on vient de le lire, jusqu'à l'Apocalypse, dans son dernier chapitre, au chapitre 22, nous le lirons tout à l'heure, et en plusieurs circonstances particulières, il y a le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu. Ne serait-ce que sur un plan humain, l'homme a rapidement compris tous les avantages qu'il y a à s'établir sur les rives d'un fleuve. Très rapidement d'ailleurs, beaucoup de capitales et beaucoup de villes importantes et prospères sont sur les rives d'un fleuve. Les capitales, Moscou avec le fleuve Moskva, Paris, Londres avec la Tamise, et on peut multiplier les exemples, les grandes villes, Lyon, par exemple, même les Lyonnais disent qu'il y a trois fleuves. Il y a le Rhône, il y a la Saône et il y a le Beaujolais même. Bon, enfin, ça c'est la vision lyonnaise, hein, c'est la vision locale. Mais on a bien vite compris qu'un fleuve présentait des avantages essentiels. Premier avantage, la fertilité. La fertilité, parce que les alluvions que drainent les fleuves rendent fertiles toutes les terres voisines. La fécondité, la fertilité, la protection aussi. Il y a des frontières qui coïncident avec des fleuves. La protection, un fleuve est un élément naturel que des troupes mal intentionnées auront de la difficulté à franchir. La protection. Et puis on a aussi assez rapidement compris qu'un fleuve, c'est un moyen de se déplacer et de déplacer des grosses bûches d'arbres. C'est un moyen de locomotion. Il y a tellement d'avantages. On s'est aussi aperçu qu'un fleuve, on pouvait l'exploiter pour générer de l'énergie. Ma prière, c'est que tu sois établi près du fleuve de Dieu. Et que tu réalises les avantages essentiels qu'il y a à établir sa foi en connexion directe avec le fleuve de Dieu, qui, je le répète, symbolise l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avec son glorieux ministère aux conséquences extraordinaires. On en citera quelques-unes tout à l'heure. Dieu, après avoir créé tout ce que le premier chapitre de la Genèse nous dépeint, et après avoir installé Adam, Ève, dans ce merveilleux jardin, rapidement, va susciter la manifestation d'un fleuve. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Vous savez que le Cantique des Cantiques compare la bien-aimée à un jardin arrosé. Alléluia, hein ? Et ce fleuve va donc se répartir en quatre bras, se diviser en quatre bras. Nous connaissons le nom de chacun des bras de ce fleuve et nous avons quelques informations édifiantes à leur sujet. Le premier bras s'appelle Pishon, ce qui signifie qui coule librement. Tiens, j'ai une première information qui m'enseigne, qui m'instruit, la nécessité que le fleuve de Dieu puisse couler librement. Amen. Ce qui sous-entend, là encore, qu'il peut rencontrer des obstacles. Et je veux, sous le regard de Dieu, regarder et inspecter, analyser les dispositions de mon cœur, afin que aucune disposition de mon cœur ressemble à un barrage, à un obstacle qui limiterait et qui embarrasserait le libre cours du fleuve de Dieu. Je crois, mes frères et mes sœurs, que au sein de l'Église que nous constituons, le Saint-Esprit veut agir. Amen. Qu'il veut agir librement. Et ce premier bras, Pishon, nous amène à visiter tout un territoire, le territoire de Havila, où se trouve de l'or, et de l'or pur. La vraie richesse. Dieu veut enrichir ta vie spirituelle. Il s'y trouve aussi le bdellium, et la pierre d'onyx, on peut parler des ressources de Dieu, des capacités dont Dieu veut te doter afin que ce dont tu es incapable naturellement, tu deviennes capable de le faire, de le vivre et de l'expérimenter. En repassant ces choses, moi, l'envie grandit dans mon cœur de me laisser aller et entraîner par ce premier bras du fleuve de Dieu qui coule librement. J'ai envie de dire, Seigneur, qu'il n'y ait rien dans ma vie intime qui ressemblerait à un bouchon, à un barrage, à une sorte d'agglomérat de pensées humaines qui ferait bloc et qui empêcherait. Savez-vous qu'il y a même certains mouvements qui ont mis dans leur règlement intérieur, dans les églises locales, leur règlement intérieur, nous ne croyons pas dans la validité du baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui, ni dans les dons spirituels, ni dans la guérison divine. Et un frère nouvellement baptisé dans une de ces églises, alors que dans sa cuisine, le matin, il faisait passer son café, il était en train de lire la parole de Dieu. Personne ne lui avait parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Il était là en train de lire la parole de Dieu. Le fleuve le visite. Alléluia. Le Saint-Esprit le visite. Légionnaire à la retraite, donc quelqu'un qui avait tout un vécu coriace. Hein, il se retrouve à genoux, accoudé sur sa chaise, en train de pleurer et surtout en train de parler en langue. Il n'avait jamais entendu parler de ces choses. Que le Seigneur nous visite ce matin et que son fleuve vienne visiter ton cœur. Et en visitant ton cœur désertique, il va le transformer en jardin luxuriant, plein de fleurs, de fruits, d'abondance. Alléluia. Le deuxième bras, c'est Guillon, qui signifie jaillir et bouillonner. Jaillir et bouillonner. Ça, c'est un autre aspect du ministère du Saint-Esprit. J'ai cité tout à l'heure le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, ça a été un formidable jaillissement. Le jour de la Pentecôte, vous savez, quand les 120 disciples dans la chambre haute priaient, attendant la promesse du Père, dont ils n'avaient pas d'informations plus précises. La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel, un vent impétueux. La maison en fut remplie, et surtout eux, ils en furent remplis, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Il y a eu un jaillissement, et je vous assure que ce jaillissement a suscité aussi chez ces croyants un bouillonnement, et que le Seigneur nous donne aussi de vivre cela. Le Seigneur veut aussi baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une médaille de mérite. C'est un cadeau affectueux que Dieu le Père Céleste a promis à chacun de ses enfants. Et tu en fais partie. Amen. À toutes les personnes qui ont fini par se résigner en pensant que le baptême dans le Saint-Esprit, c'était toujours pour les autres et pas pour eux, détrompe-toi. Ce matin, le fleuve Guillon veut passer dans ta vie. Et il veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le troisième bras, c'est Idékel, le tigre qui nous parle d'un autre aspect du Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est la puissance. On peut se demander quel est l'animal que craint le tigre. Quand de très loin, on entend son expression vocal, mais ça fait trembler tout le monde, n'est-ce pas? C'est la puissance. À tous ceux qui sont là dans un état de faiblesse à subir les accusations de l'adversaire, oh que le bras Idékel coule dans ta vie et rende fort le faible et victorieuse la faible. Et puis le quatrième bras de ce fleuve, c'est l'Euphrate qui signifie le fructueux. La douceur, le fructueux. Et là, je parlerai un quatrième aspect du ministère du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Gloire à Dieu, j'entends encore cette épouse qui, avec son époux, venait de se convertir, rencontrer Jésus, et un dimanche après-midi, je lui demande de rendre témoignage, et elle dit des choses merveilleuses, et entre autres, elle raconte de quelle transformation elle a été le témoin chez son mari, qui était un homme imbuvable, insupportable. Elle nous disait, quand le lundi matin, il partait de la maison pour toute une semaine de travail au loin, mon fils et moi, nous soufflions d'aise. Et quand le samedi, il était à la maison, c'était une atmosphère chargée d'électricité statique. C'était invivable. Et elle nous disait de quelle manière, après avoir rencontré le Dieu des miracles, le Dieu qui fait de nous de nouvelles créatures. Dieu avait transformé son mari et d'un loup, disait-elle, il en a fait un agneau, un homme doux, produisant le fruit de l'esprit. Frères et sœurs, que ce quatrième bras du fleuve de Dieu vienne nous visiter les uns les autres. Gloire à Dieu. Et que nous ne nous retranchions pas derrière des formules faciles, surtout fausses, faciles. Qu'est-ce que vous voulez, pasteur ? J'ai toujours été comme ça. Ne nous dédouanons pas facilement comme cela, mais comprenons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons puissamment visités par l'Esprit de Dieu et ce bras Euphrate, la douceur, le fructueux, afin que le caractère de Jésus-Christ vienne établir son règne en nous et que nous puissions produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la douceur, la fidélité, la tempérance, qu'on peut aussi appeler la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Ça n'est pas possible sans l'action merveilleuse du fleuve de Dieu dans les régions les plus intimes de ta personnalité et de ma personnalité. Que le Seigneur soit béni. Et puis, ce fleuve de Dieu, nous le rencontrons dans le parcours biblique, dans le psaume 46. Le psaume 46, on l'a lu ce psaume mardi soir, et on va y revenir, si vous le permettez, au verset 1. Nous lisons ceci. Le psaume 46, même le verset 2 déjà. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Pause. « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. » Je disais que beaucoup de capitales et de villes importantes ont établi leur structure sur les rives d'un fleuve. Étonnamment, pas Jérusalem, parce qu'il est parlé ici de la cité de Dieu, et cette expression nous parle très clairement de Jérusalem. Il est étonnant de constater que Jérusalem n'est pas sur la rive d'un fleuve. Cependant, s'il n'y a pas de fleuve géographique et physique qui visite Jérusalem, ici, je trouve une formidable révélation. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Non seulement Jérusalem, la Jérusalem que nous connaissons, mais dans un deuxième, une projection, dans une deuxième dimension, l'Église. Parce que la cité de Dieu, c'est aussi l'Église qui est le temple de Dieu au plan spirituel. Et j'aimerais, mes frères et mes sœurs, vraiment vous encourager en rappelant cette glorieuse vérité. C'est que Jésus-Christ, le chef de l'Église, a placé son Église bien-aimée aux soins du Saint-Esprit. Il est un fleuve dont les courants réjouissent l'Église. Que quelqu'un me dise quelque chose. Par exemple. Il est un fleuve, c'est le fleuve de Dieu qui a été mandaté, missionné par le chef de l'Église pour qu'il prenne soin de l'Église. Toute la durée, toute cette dispensation de la grâce où Jésus bâtit son Église sur terre, il a pris soin, par amour pour elle, d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que depuis la Pentecôte, il y a 2000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce que la trompette de Dieu sonne et que l'Église soit enlevée, il est un fleuve. C'est le fleuve de Dieu dont les courants vont travailler à réjouir, à réjouir, à réjouir la cité de Dieu. Et dans ce verbe réjouir, il n'y a pas que la notion d'hilarité, mais c'est tout un programme bienfaisant. Dans ce mot réjouir, moi j'y trouve apaisé, j'y trouve réconforté, encouragé, expliqué peut-être des éléments qui sont des défis à notre compréhension, éclaircir, faire tout un faisceau d'actions dont le résultat, c'est de nous réjouir. Amen. Moi, je dis que la joie chrétienne, c'est un miracle. Et moi, je crois au miracle. Et vous? Oui ou non? Alléluia. Ils ont été menacés. Ils ont été frappés. Ils ont été sévèrement repris. On finit par les lâcher, Pierre et Jean. Et la Bible nous dit, ils se réjouirent. Ils se réjouirent de ce qu'ils furent trouvés dignes d'être maltraités à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas une joie naturelle, ça. C'est le fleuve de Dieu qui visite les croyants. Alléluia. Dans un épisode lourd de notre vie familiale, lorsque ma grand-mère a été rappelée auprès du Seigneur, une femme de prière, on était quand même triste de la séparation, même s'il y avait l'espérance. Je me souviens, alors que nous étions là en famille, les voisines venaient à la maison pour consoler maman. Et je constatais que maman, sans se forcer, apporter de la consolation aux voisines, plutôt que l'inverse. Et le Saint-Esprit mettait dans sa bouche des paroles de vie, alors qu'on était en deuil, des paroles d'espérance, alors qu'il y avait une raison sérieuse de se désoler. C'était le fleuve de Dieu qui transportait maman et qui était plus fort que les émotions qu'on peut tous comprendre. Elle apportait des paroles, mais des paroles de vie, des paroles d'espérance. Ça, c'est la joie de Dieu. Je vous ai dit ces choses, dira Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un va dire, non, c'est pas pour moi, ça. Le pasteur ne sait pas ce que je traverse. C'est pas un problème. Dieu le sait. Alors il t'envoie le fleuve, dont les courants ont la capacité de réjouir ton cœur. Amen. L'Esprit de Dieu a comme mandat le bien de l'Église, de Jésus-Christ, à travers toute l'histoire, et le bien de l'Église d'Aubagne, dans les temps que nous vivons. Avez-vous été interpellé par cette expression qui revient régulièrement, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, l'Esprit de Dieu veut dire aux églises et à l'Église des paroles pour son bien. Alléluia. Moi, je prie pour que ce message ne soit pas une prédication de plus, mais que cela soit, comme je l'ai dit mardi soir, la voix de l'Éternel qui se fasse entendre et qui va engendrer de merveilleuses, merveilleuses bénédictions. Oui, le psaume 46 nous rend témoignage des bienfaits de ce fleuve merveilleux, le fleuve de Dieu. C'est du Saint-Esprit que l'Église doit attendre le secours, les ressources, la bénédiction. Ce n'est ni par puissance, ni par force, dira le Seigneur, mais c'est par mon esprit, c'est par mon esprit. Ô Seigneur, que ton Saint-Esprit nous visite ce matin. Et il le veut. Alléluia, gloire à Dieu. Allez, un troisième texte où l'on trouve mention du fleuve de Dieu. En fait, un troisième et un quatrième. On va les lire à la suite l'un de l'autre. Ézéchiel, chapitre 47. C'est un chapitre fameux. Un chapitre fameux. Ézéchiel, chapitre 47. On va lire les 12 premiers versets. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « C'est eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. J'ai envie de dire, hélas, ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Et puis on va lire aussi dans Apocalypse, je parlais du dernier chapitre de ce livre, le chapitre 22. On va lire simplement les 5 premiers versets. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. On peut dire amen ? Voilà la destinée glorieuse que le Seigneur prépare et établit pour tous ceux qui lui appartiennent. Il est question du fleuve de Dieu dans ces deux textes. Dans Ézéchiel 47, il y a deux phases. La première, où Dieu invite Ézéchiel à découvrir et à observer les choses. Il le conduit et il observe. Il est comme, il est extérieur et il observe, il découvre. Peut-être, et je prie pour cela, quelqu'un va découvrir ce matin. Découvrir la joie chrétienne, la foi véritable. Il découvre et entre autres découvertes, il observe que sous l'autel, au pied de l'autel, du côté du midi, un fleuve sort. La source, elle est là. Le fleuve sort au pied de l'autel. Dans Apocalypse, l'apôtre Jean, sur son île de Patmos, va accéder à toute cette révélation. Et au chapitre 22, Jean va aussi découvrir un fleuve. Le même fleuve, le fleuve de Dieu, c'est le fleuve de Dieu. Et il va constater que dans le chapitre 22 d'Apocalypse, le fleuve de Dieu sort non pas de l'autel, mais du trône de Dieu et de l'agneau, et avec les conséquences similaires que celles qui sont rapportées dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, le fleuve sort de l'autel, dans l'Apocalypse, le fleuve sort du trône. Ceci pour rappeler une vérité essentielle. Ça commence par l'autel. Ça finit par le trône. Si je veux le trône sans passer par l'autel, je ne suis pas dans la sagesse de Dieu, ni dans sa volonté. Ça commence par l'autel, mais cet autel, de quoi nous parle-t-il ? D'un sacrifice. Sur cet autel était répandu le sang d'un sacrifice innocent. Et cet autel, bien sûr, nous parle déjà du sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. J'aimerais rappeler que toute véritable vie chrétienne passe par une expérience personnelle très forte de prise de conscience de la valeur du sacrifice de Jésus. Amen. Le roi Akaz, qui en avait perdu une bonne de cases, a commis une erreur fondamentale. C'est celle de mettre l'autel de l'Éternel de côté. Il ne l'a pas supprimé, mais il l'a mise de côté. Et à sa place, il a fait ériger un autel impressionnant sur le modèle qu'il avait vu à Damas. Quelle erreur ! Lorsque le sacrifice de Jésus, qui doit rester central dans ma vie personnelle et ma foi personnelle, par faillite, par manque de vigilance, peu à peu devient un élément périphérique. Et je peux chanter des cantiques sur la croix sans vraiment prendre la mesure de la valeur du sacrifice de Jésus. Que le Seigneur ramène dans ton cœur et dans mon cœur l'œuvre sublime que Christ a accomplie lorsqu'il a pris sur lui tes péchés, mes péchés, lorsque le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. par preuve suprême de l'amour qu'il nous porte, Christ a subi l'agonie de la croix, le sacrifice de la croix. Mais cette croix n'est pas une défaite, parce que de la croix coule le fleuve. Amen. C'est là que prend sa source le glorieux ministère du Saint-Esprit. Et bien entendu, si je veux que l'Esprit de Dieu soit déversé en abondance sur ma vie, précédemment, il faut qu'il y ait sur ma personne le précieux sang de Christ. D'abord, le sang de l'agneau qui nous garantit la propitiation de Dieu, puis l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre a répondu à la foule qui l'interrogeait ? « Homme frère, que ferons-nous ? » Eh bien, repentez-vous. Ça commence par là. Venir au pied de la croix. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ça, c'est le sang de Christ qui est là en signe de propitiation, qui a le pouvoir de nous purifier, gloire à Dieu, de nous purifier intérieurement, de nous libérer de nos addictions, de nos inclinations naturelles, pour ensuite, eh bien, recevoir le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, parce que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux en aussi grand nombre, et à Aubagne. Ça se... Permettez que je le rajoute, parce que je suis un peu chauvin, moi. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Est-ce que ta vie, dans l'état où elle est placée sous le signe du précieux sang de Jésus ? Amen. Est-ce que de tout ton cœur, et dans l'état encore, je le répète, dans l'état où tu es, peu importe, on n'a pas toujours été en forme. Vous croyez que j'ai toujours été en forme, moi ? Mais je vous le dis, non. Mais peu importe l'état où tu es, mais dans l'état où tu es, sans essayer d'enjoliver les choses, la vitrine, non, tu viens et tu te places au bénéfice du précieux sang de Christ. L'autel, ça commence par l'autel. Immédiatement, alors, le Saint-Esprit va pouvoir déployer dans ta vie son œuvre glorieuse de guérison, de restauration. On va en parler tout à l'heure. N'est-ce pas dans cet ordre que les choses se sont passées même pour Jésus ? Il a fallu d'abord que Jésus soit baptisé dans le Jourdain, et quand il sort du Jourdain, descend le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe. C'est un enseignement qu'on trouvera tout au long des Saintes Écritures, même dans les lois et les prescriptions du Lévitique, la loi mosaïque. On trouvera toujours que le sang d'un sacrifice innocent précède et prédispose à l'effusion de l'huile, symbole du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que vous et moi, à titre personnel, nous demeurions au bénéfice du précieux sang de Jésus. Alors l'eau va sortir. Et il va ainsi se manifester. Et dans un premier temps, Ézéchiel va constater, mais une chose est de constater, une autre, bien plus glorieuse, est de l'expérimenter. Amen. Mais il y en a qui, au plan théologique, pourraient parler du Saint-Esprit bien mieux que je ne saurais le faire. Seulement, l'important, c'est en fait d'y entrer. Et à un moment donné, ce guide divin qui a été mandaté pour aider Ézéchiel à aller plus loin dans ce fleuve va mesurer une première étape et va dire, allez Ézéchiel, il faut maintenant entrer dans le fleuve. Il faut entrer dans le fleuve. Et Ézéchiel va entrer dans le fleuve jusqu'à ce que l'eau arrive à ses chevilles. Et les chevilles, c'est évident, les chevilles, bénies et fortifiées par le Saint-Esprit, vont te permettre d'être debout et de marcher. Oui ou non ? Vous croyez que c'est dans l'énergie charnelle et humaine que nous marchons ? Mais on ne peut pas, on ne pourrait pas. Si on n'avait que nos ressources humaines, mais on ne tiendrait pas. Quel est le facteur qui nous rend capable de marcher en vertu, de persévérer et d'aller jusqu'au bout? La marche chrétienne est un miracle permanent. Et si les chevilles de quelqu'un ont été visées et affaiblies et fragilisées, allez, viens, entre dans le fleuve de Dieu ce matin même et laisse le Saint-Esprit arriver au niveau de tes chevilles et te donner la force de te tenir debout et de marcher. Ma Bible me dit « marcher selon l'Esprit » et non selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Galates chapitre 5 m'enseigne qu'il nous est indispensable d'être conduits par l'Esprit. Alléluia! Le fleuve de Dieu veut arriver jusqu'à tes chevilles, image de ta marche victorieuse et persévérante. Et puis, une deuxième étape, allez, avance encore, va plus loin dans le fleuve de l'Esprit, allez plus loin avec le Seigneur, c'est ça aussi. Et alors, il a maintenant de l'eau jusqu'aux genoux. Paul disait, je fléchis les genoux devant le Père, de qui tire son nom, l'humanité. Je fléchis les genoux. Ceci va nous parler de la prière, mais aussi de l'adoration. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut donner à ta vie de prière et à ta vie d'adoration une dimension qui corresponde à la volonté de Dieu. La Bible me dit, l'Esprit nous aide dans la prière. La prière, mes amis, après la Pentecôte, lorsque les croyants ont commencé à prier, Actes chapitre 4, quand ils ont prié, quelle prière! Quelle densité, quelle puissance, quelle ferveur! Et puis, la maison se met à trembler. Et puis en sortant de ce moment de prière glorieux, les apôtres sont ragaillardis et ils continuent à annoncer le beau nom de Jésus-Christ dont on les avait interdit de le prononcer parce qu'ils avaient rempli toute la ville de ce nom. Les genoux nous parlent de la prière. Quel est l'état de ta vie de prière ? Quelle est sa qualité, sa richesse, son intensité? Est-ce que la prière, pour toi, est un acte de dernière urgence, occasionnel, comme on va chercher la roue de secours dans le coffre de la voiture, quand tu crèves, tu penses qu'il y a une roue de secours. Est-ce que la prière, c'est une roue de secours? Un pasteur disait, la prière, c'est la respiration de l'âme. Amen. Qui est-ce qui est en apnée là depuis quelque temps? Ben respire, respire, respire l'oxygène du Seigneur. Respire l'air vivifiant du royaume des cieux. Et en ceci, le Saint-Esprit veut t'aider. Mais bien aimé, ce que je vous dis ici, ce n'est pas de la moralisation. Loin de là, parce que j'ai autant aimé plus que vous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour donner à ma vie de prière sa richesse, sa puissance, sa dimension, son efficacité. Alléluia! Sans nous juger, sans nous écraser, sans nous enfoncer, le Seigneur s'approche de nous et il nous propose de nous visiter par son fleuve et de venir au niveau de tes genoux. Ta vie de prière est ta vie d'adorateur et d'adoratrice. Parce que quand même le Père demande des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui va élever ma personne, mon âme, et m'amener à cette adoration, vous savez. Et là, je vais vous dire une chose. L'adoration menée à sa pleine dimension, elle correspond à l'offrande de ma vie. J'aime de plus en plus J'adore de plus en plus, et puis à un moment donné, j'adore pleinement, et cette plénitude d'adoration, c'est l'offrande de ma vie. Mon Dieu, accepte ce que je suis, je t'appartiens. Gloire à Dieu. Vous avez entendu ce que le vieil Abraham disait à son fils Isaac au pied du mont Morija. Abraham va montrer à Isaac ce sommet. Et il va lui dire, nous irons jusque-là pour adorer. Mais il savait que là, il allait offrir en sacrifice son fils Isaac. Dieu, au moment ultime, a arrêté le bras d'Abraham et a pourvu au sacrifice. Alléluia! Mais, voyez, nous irons jusque-là. Ceci exprime une progression. Moi, je prie pour que nos cultes progressent. Il y en a trois qui sont d'accord. Oui ou non? Que j'aimerais avoir, mais je rêve peut-être, mais j'espère que c'est le rêve de la foi quand même. J'aimerais avoir ce problème de vous dire, oh, arrêtez, frères et sœurs, ça suffit, arrêtez. Il y en a trop. Je préférerais intervenir dans ce sens que dans l'autre. Que le fleuve de Dieu arrive jusqu'à nos genoux. Et que notre adoration, notre communion avec Dieu, notre vie de prière, d'intimité, de relation avec le Maître, se développe, se fortifie. Si tu as abandonné la prière, mon bien-aimé, reprends la prière. Reprends la prière. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, dit la Bible. Qu'il prie. Moi, je crois à la prière. Et vous ? Moi, je crois que la prière de la foi au nom de Jésus-Christ peut engendrer le miracle. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut engendrer un miracle dans ta vie. Attends-toi au miracle. Salue d'avance le miracle. Réjouis-toi d'avance, alléluia. Et proclame que ton Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et ça n'est possible que si l'Esprit de Dieu vient fortifier tes genoux. Et puis encore une étape, allez, on va plus loin dans la vie du Saint-Esprit. Et cette fois-ci, l'eau arrive jusqu'aux reins. Et j'aimerais vous parler, en mentionnant les reins, j'aimerais vous parler du service. Parce que c'est quand on se préparait à travailler et à servir qu'on se saignait les reins. Pour dégager nos pieds et pour avoir les gestes libres. C'est le service. N'oublie jamais que tu es sauvé pour servir. Amen. Sauvé pour servir, mais n'oublie jamais non plus que ton service doit être une source d'épanouissement personnel et non pas de contrainte. Servir Christ, c'est pas une corvée, hein, je vous le dis. C'est pas une corvée. C'est pas non plus une source de gain, je dirais, matériel, humain. Mais servir Christ, c'est un des facteurs fondamentaux de bonheur personnel. La Bible nous dit « Servez Christ avec joie ». Là encore, on retrouve cette notion de la joie. Alléluia. Et ton service, Dieu le veut imprégner du Saint-Esprit, inspiré du Saint-Esprit et accompagné de la démonstration du Saint-Esprit. Paul disait qu'il s'attendait toujours à une démonstration d'esprit et de puissance. Et quand tu parles de Jésus aux enfants de l'Église, attends-toi quand tu leur expliques l'Évangile, que le Saint-Esprit descende sur eux. Moi, je crois que des petits de 5 ans, de 7 ans, peuvent brusquement prendre conscience de l'amour de Jésus, de la portée de la croix. Et ils peuvent donner leur cœur à Jésus à 8 ans. J'ai visité il y a pas longtemps le pasteur qui m'a baptisé. Et il me rappelait que c'est à l'âge de 8 ans qu'il avait donné son cœur à Jésus. Et il me disait, tu sais, depuis l'âge de 8 ans et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais quitter le Seigneur. Alléluia! Le Saint-Esprit veut donner à ton service une puissance, une dimension. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ah, que votre vision de votre service soit bénie ce matin, qu'elle soit rafraîchie, qu'elle soit renouvelée. Gloire à Dieu. Tu ne sers pas parce qu'il n'y a personne d'autre, donc il faut bien que tu le fasses. Non! Tu sers parce que tu es transporté par l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'eau est arrivée jusqu'à tes reins. Alléluia! Et c'est ainsi que tu dois, eh bien, jusqu'au bout, servir le Seigneur. Oh, alléluia. J'aime beaucoup lire les livres d'histoire. Et j'ai encore en mémoire un tableau d'un peintre de l'époque napoléonienne. Et sur ce tableau, c'était le retour de la Bérézina, vous voyez. Donc c'était pas très glorieux, et le peintre avait représenté les vieux grognards de Napoléon, alors avec des pansements partout, avec des béquilles, des tuteurs pour eux. Ils étaient vrais, et j'ai regardé, et je me suis dit ce jour-là, oh là là, ils étaient pas en bon état. Et ben aujourd'hui je me dis, je veux pas ressembler à un de ces grognards. Je veux pas finir ma course avec des pansements partout, moi. Je veux pas finir ma course avec des attelles portés par des collègues. Je veux pas finir comme ça, moi. Je veux pas finir avec un évangile de faiblesse, de toutes sortes de mortifications, d'ulcérations, de souffrances. Non, moi je veux finir l'évangile, dans le service de l'évangile, avec l'eau du Saint-Esprit jusqu'à mes reins. Moi, je prie pour que mon service soit sans cesse régénéré, rafraîchi, et c'est la volonté de Dieu pour nous tous. Amen. Et puis, à un moment donné, allez, on va plus loin dans le fleuve, et alors là, il y a un moment, il n'avait plus pied. Moi, j'ai plus pied avant les autres, vous comprenez pourquoi, mais même ceux qui font 2 mètres, il y a un moment, ils ont plus pied. Il n'avait plus pied. Alors, autrement dit, d'une manière évidente et concrète, le contact avec le terrestre était impossible. Hop ! Il fallait qu'il nage. C'est-à-dire que là, on entre dans une dimension qui échappe à la dimension terrestre. Moi, j'ai appelé ça sur ma petite feuille ici, le merveilleux. Gloire à Dieu, le merveilleux. Est-ce que nous nous attendons au merveilleux de Dieu ? Le merveilleux, c'est-à-dire le merveilleux, donc c'est l'imprévisible, c'est l'indescriptible, c'est l'inexplicable, c'est le divin, c'est merveilleux. Et Dieu veut nous émerveiller. Oh, le Seigneur voudrait susciter en toi des cris d'émerveillement, lui disant, Seigneur, ça, j'osais même pas le penser. Vous savez, quand l'apôtre Paul encourage les croyants à prier, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Eh ben, c'est le merveilleux, ça. Moi, je prie pour que cette modeste salle soit le témoin de la manifestation des merveilles de Dieu. Amen. Les merveilles de Dieu, ça peut arriver subitement. Oh, je prie pour que nous le croyions tous, sincèrement. Des guérisons instantanées. Et puis si un jour quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, et même si c'est en cours d'une prédication, ça ne me dérangera pas d'être interrompu. C'est arrivé chez Corneille, alors que l'apôtre Pierre était en train de prêcher. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. C'est le merveilleux, ça. Gloire à Dieu, c'est le merveilleux. Allez, on termine, c'est ma conclusion. Non, je ne termine pas encore parce que j'ai oublié 2 derniers points. Parce que tout à l'heure, j'ai ponctué un verset par le mot hélas. Le mot hélas. Oui, parce que quand je lis ce verset 11, j'aurais voulu que ce verset 11 n'y soit pas, mais il y est. Alors que le fleuve coule, il apporte la vie partout où il peut accéder. Il y a ce verset 11. Ses marais et ses fosses ne seront point assainis. ils seront abandonnés au sel. Les marais, ce sont des étendues d'eau, mais fermées. Et le fleuve n'a pas réussi à accéder. Je prie le Seigneur pour que personne ne soit dans les dispositions de fermeture à l'action bénie et vivifiante du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne nous forcera jamais, il nous proposera sans cesse, alléluia, gloire à Dieu, hein, patiemment, il nous reproposera sans cesse, mais nous avons notre part à faire. Et si intérieurement, tu te retrouves dans l'image d'un marais fermé, prends la décision ce matin de faire une ouverture dans ta fermeture et de te laisser visiter par le Saint-Esprit. Alléluia. Dès l'instant où le fleuve va entrer en contact avec les eaux croupies, il va les assainir, il va les vivifier et les eaux croupies vont à leur tour produire une pêche miraculeuse. Parce qu'il y a eu, partout le cours du fleuve, une pêche abondante. Moi, je lis le récit de deux pêches miraculeuses dans les évangiles, mais je crois que le Seigneur, c'est le Seigneur de la pêche miraculeuse. Et le Seigneur peut, en 2024, et dans notre région, et dans notre France, qui est en voie de ruine, Dieu, par le ministère du Saint-Esprit, peut susciter une pêche miraculeuse. Gloire à Dieu, au point que le service d'accueil va être débordé. Ils vont être là, devant, et sur le perron, et sur tout le long de l'allée des fourmis, là, hein, parce qu'il y aura ce ministère du Saint-Esprit, la pêche miraculeuse, et puis la production d'arbres, mais d'arbres aux qualités très particulières, proposant guérison et nourriture. Leurs feuilles servent à guérir les nations et leurs fruits à les alimenter. Que le Seigneur soit béni. Et je termine Jean chapitre 7, c'est ma conclusion. Bon, comme le fleuve est un peu long, le discours aussi peut-être, mais que le Seigneur nous bénisse à travers ces quelques paroles. Oh, nous avons tous lu avec émotion ces quelques versets, au verset 37 du chapitre 7 de l'évangile de Jean. Il nous est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. C'est ma conclusion. C'est le dernier jour, le grand jour de la fête. Et Jésus prend une posture inhabituelle chez lui, il se tient debout. Et il utilise une intonation inhabituelle chez lui, il s'écrie. D'habitude, sa voix ne se fait pas entendre, il parle et souvent il est assis pour enseigner. Mais là, il est debout et il clame un appel, une invitation. Une bonne nouvelle. Le sujet qu'il va aborder est essentiel. Il est aussi personnel. Si quelqu'un. Celui qui. On pourrait dire celle qui. C'est personnel. Le Seigneur fait entendre cette invitation vibrante adressée à tous. Mais surtout à chacun, et la réponse dépendra de chacun. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » À ce moment de la prédication, qui est son terme, j'aimerais vous inviter à 5 minutes, où ensemble on va chanter une partie d'un cantique avec Jean-Philippe, qui est en rapport avec justement le Saint-Esprit dans nos vies. Et peut-être on pourrait le chanter tous debout. Tu viens, Jean-Philippe ? Peut-être les musiciens aussi pourraient prendre place. On pourrait se lever tous ensemble, chanter.